enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous passons, je crois, ensemble une soirée très festive. J'aime bien essayer d'employer des mots qui font cool et qui ont l'air d'être dans le vent. Aujourd'hui, on dit plus... Dans le vent, ça se dit plus. Hein. Si vous voulez avoir l'air d'être un peu à la mode, il faut dire tendance. Vous savez, hein, faut dire tendance. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter mon épouse qui va se lever afin que vous la connaissiez. C'est ma meilleure moitié, Brigitte, voilà. Et puis je risque d'oublier aussi, j'ai à la librairie des livres à vendre que j'ai écrit, enfin c'est l'imprimeur qui les a écrits pour moi quoi. Et donc ils sont là-bas et je me permets d'en parler parce que le bénéfice de la vente de ces livres va entièrement à la mission, donc c'est pas un truc à moi. Voilà, donc vous savez dans les mots, la communication, on communique tous les jours, enfin on essaye en tout cas, et les mots eux-mêmes évoluent. Et il y a des mots à la mode, faut dire, je vous l'avais dit une fois, hein, faut dire, en ce moment, faut dire ludique, ou festif, ou jubilatoire, si vous pouvez le placer, c'est moins facile. Et il y a eu un temps où on aimait beaucoup drastique et consensuel, mais c'est un peu passé maintenant. En tout cas, il faut essayer d'être tendance, vous voyez, c'est tendance. Et il y a quelque temps, pendant les vacances, il y avait les Jeux Olympiques, et alors on a pu regarder comme ça quelques épreuves. Et à un moment, un des commentateurs a employé un mot que j'ai trouvé, ça m'a frappé l'oreille parce que j'aime les mots. Et il parlait d'un champion et il a dit que ce champion dans son pays était une icône. Bon, j'ai dit tiens, ça c'est un truc qui est en train de sortir, c'est nouveau quoi, hein. Alors donc si vous trouvez, hein, faut le dire, c'est tendance. Donc c'est une icône. Alors, ça, moi, ça m'a fait un peu rigoler parce que je m'imaginais ce champion, quand il descend de l'avion, il arrive chez lui et tac, on le colle sur une petite planchette en pain pour faire une icône, comme ça. Faut avoir l'air très... avec le CD derrière, là. Et donc, je l'imaginais comme ça, une icône. Et je me disais que s'il faut coller tous les champions sur une petite planche en pain comme ça, ben on a du pain sur la planche. Hein. Alors, mais le nœud de cette histoire, pas le nœud de la planchette en pain, mais le nœud de l'histoire, c'est que ça m'a fait réfléchir sur pourquoi on utilise des mots comme ça. Avant, on disait une idole. Bon, aujourd'hui, ça ne change pas beaucoup, on dit une icône. Bon, en tout cas, ça me fait penser qu'il y a dans notre société moderne, matérialiste, pseudo-scientifique, etc., il y a une espèce de nostalgie du sacré, vous voyez. Ce que les gens ne trouvent plus de sacré dans leur vie, dans une pratique religieuse qui s'est tellement dissipée, diluée maintenant. Donc on essaye de la retrouver dans quelque chose d'autre. Hein. Par exemple, en sport, on parlera des dieux du stade. Hein. Et on dit une icône. C'est-à-dire qu'on essaye de retrouver du sacré parce qu'on en a perdu le sens. Hein. Alors on essaye de le trouver là où on peut, quoi. Hein. Et donc voilà des champions qui deviennent des icônes. Bon, écoutez, Bon, tant pis pour eux, quoi. Hein. Alors, on sacralise à bon marché. Et vous savez que ce qui est bon marché, c'est pas cher. Et si c'est pas cher, ça dure pas longtemps. Hein. Et ça veut dire forcément que l'icône, il faudra la changer souvent. Hein. Mais heureusement, nous avons, dans la Bible, nous avons une communication de celui qui est sacré. Nous avons une communication de celui qui ne change pas. De celui qui n'a pas besoin d'être réélu, de celui qui n'a pas besoin d'être approuvé, c'est celui qui est, c'est Dieu. Alléluia. Le sacré, le sens du sacré, c'est chercher Dieu. C'est Dieu seul qui peut combler dans le cœur de chacun d'entre nous cette aspiration à connaître ce qui est absolu, ce qui est vrai, ce qui est entier, ce qui est véritable, ce qui est éternel, définitif, parfait. Et c'est seulement lorsqu'on lit la Bible, hein, peut-être vous ne l'avez pas lu, mais ce soir on va lire un petit bout ensemble, et c'est là qu'on découvre la personne de Dieu. Alors j'aimerais lire avec vous ce soir un passage que vous pouvez lire si vous voulez en même temps que moi, si vous avez une Bible, mais sinon je vais en faire la lecture. C'est un passage qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, mais moi j'ai une traduction un tout petit peu, un petit peu différente, donc je vais vous le lire, et puis si vous préférez vous écouter, c'est pareil, ok? Alors c'est une traduction qui a supprimé un petit peu certains aspects littéraires du texte, hein, par exemple des subjonctifs, même le passé simple, hein. Le passé simple, ça va bien par écrit, mais quand on le parle, si vous dites à quelqu'un « Vous arrivâtes à l'heure et vous garâtes sans problème. Oh, vous mes patates !» Vous voyez ça passe moyen. Ça passe moyen. Si on l'écrit, ça fait pas pareil. Donc, le texte, il est écrit, d'accord, mais il a été écrit sur la base de gens qui l'ont dit et qui ne l'ont pas écrit. Ça veut dire qu'il faut qu'on retranscrive en oral quelque chose qui est un écrit. Alors, je vous lis ce texte, hein, et puis après, comme ça, on va en tirer quelques applications, et puis après, on va prier ensemble. Et puis après, on va voir comment Dieu agit au milieu de nous. Parce que si c'est lire pour lire, hein, ça ne sert à rien, puis on peut distribuer des portions, chacun lit chez soi, c'est bon. Hein. Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour voir Dieu agir au milieu de nous, pour voir Dieu agir dans notre vie. Ok, c'est bon, on y va? On y est? C'est parti. Voilà que Jésus voit en passant un homme qui était aveugle de naissance. Ah ben, ses disciples disent... Eh bien, professeur, alors c'est qui a péché là? C'est lui ou c'est ses parents? Comment ça se fait qu'il est né aveugle? Alors Jésus leur dit non, c'est ni lui ni ses parents qui ont péché. Mais pour que les œuvres de Dieu soient claires en lui, il faut que je fasse, pendant qu'il fait jour, le travail de celui qui m'a envoyé. Quand la nuit arrive, ben, personne ne peut plus rien faire. Hein? Mais pendant que je suis dans le monde, moi, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit ça, Jésus crache par terre. Excusez-moi, hein, c'est le texte. Hein, je sais pas. Jésus crache par terre. Il fait de la boue avec sa salive. Oh, Berk. Et puis... Il en met sur les yeux de l'aveugle, hein, cette boue-là sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, bon, tu vas, tu te laves à la piscine de Siloé, ça veut dire un nom qui veut dire envoyé. L'aveugle, il va, il se lave, il revient, il voyait. Ses voisins, ceux qui, avant, l'avaient déjà connu comme un mendiant, il disait, mais est-ce que c'est pas le type là qui se tenait là et qui faisait la manche? Ben, il y en a qui disaient, ben ouais, c'est lui. Ben, il y en a d'autres qui disaient, non, c'est pas possible, c'est un autre qui lui ressemble. Mais lui, il disait, ouais, c'est moi. Alors, ils lui disent, mais comment ça se fait que tu vois, alors? Ben, il dit, ben, c'est le monsieur là qu'on appelle Jésus. Il a fait de la boue, il m'en a mis sur les yeux, il m'a dit, tu vas au réservoir de Siloé, tu te laves, j'y vais, je me lave et je vois. Ben, ils lui disent, il est où ce monsieur? Ben, il dit, j'en sais rien. Alors, on emmène vers les chefs religieux le gars qui avait été aveugle. Aïe, 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 mais. Ah là là. C'était un samedi, le jour du sabbat, où Jésus avait fabriqué de la boue et qu'il lui avait mis sur les yeux. Alors, de nouveau, les chefs religieux, on les appelait des pharisiens, ils lui demandent comment ça se faisait que maintenant ils voyaient. Ah ben, il leur dit, il a pris de la boue, il m'en a mis sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Ah là là. Sur ça, quelques-uns des pharisiens disaient, alors là, ça c'est une preuve que cet homme n'est pas approuvé de Dieu. Ils n'observent même pas, ils ne respectent pas le sabbat. Oui, mais il y en a d'autres qui disaient, mais alors comment t'expliques qu'un homme pécheur pourrait faire des miracles comme ça, toi? Et alors du coup, ils se disputaient entre eux. Alors ils disent encore à l'aveugle, ils disent, et toi, qu'est-ce que tu en dis de ce que ce type t'a ouvert les yeux? Il dit, ça c'est un prophète, hein, c'est sûr. Et les juifs n'arrivaient pas à croire qu'il ait pu être aveugle jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Alors ils interrogent les parents, ils disaient, dites donc, est-ce que c'est bien là, c'est bien votre fils là, que vous prétendez qu'il était aveugle? Et comment ça se fait qu'il voit maintenant? Alors les parents disaient, écoutez, nous, on sait que c'est notre fils. On sait qu'il est né aveugle. Bon, comment ça se fait qu'il voit maintenant? Qui c'est qui lui a rendu la vue? Nous, on n'en sait rien, vous avez qu'à lui demander, c'est un adulte. Il va parler de son problème. En fait, les parents disaient ça parce qu'ils avaient peur des Juifs. Parce que les Juifs avaient déjà pris la décision que si quelqu'un officiellement reconnaissait que Jésus est le Christ, il était, hop, excommunié de la synagogue. Et c'est pour ça qu'ils disaient, c'est un grand garçon, vous avez qu'à lui demander. Alors, les pharisiens appellent une deuxième fois le bonhomme. Ils lui disent, tu peux donner gloire à Dieu, hein? Nous savons que cet homme n'est qu'un pécheur. Ben lui, il dit, écoutez, si c'est un pécheur, bon, moi, ça, j'en sais rien, hein? Mais je sais une chose. J'étais aveugle, et maintenant, je vois! Mais ils lui disent, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment il t'a ouvert les yeux? Mais il leur dit, je viens de vous le dire déjà, vous n'avez même pas écouté! Pourquoi est-ce que vous voulez que je vous le redise encore un coup? Ah, mais vous voulez peut-être aussi devenir ses disciples? Alors ils se mirent à l'injurier. Ils disaient, mais qu'est-ce que ce petit crétin là? Est-ce que nous sommes... Mais c'est toi qui es son disciple. Nous, on est les disciples de Moïse. Nous savons que tu as parlé à Moïse. Mais lui, on ne sait même pas d'où il tombe celui-là. Ah, alors l'homme lui dit, alors là, pour le coup, vous m'épatez là. C'est marrant que vous sachiez pas d'où vient un homme comme ça. Un homme qui m'a ouvert les yeux. On sait bien que Dieu peut pas exaucer un pécheur. Mais c'est seulement si quelqu'un l'honore, si quelqu'un fait sa volonté, alors il l'exauce. Jamais quelqu'un a entendu dire que quelqu'un puisse rendre la vue à un aveugle né. Si ce monsieur ne venait pas de Dieu, il pourrait rien faire. Les chefs lui dirent, quoi? Tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous faire la leçon? Allez, où se dégage? Alors, un peu plus tard, Jésus apprend qu'on l'avait fichu dehors. Il le rencontre et lui dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Mais il dit, mais c'est qui, Seigneur? C'est qui pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu l'as vu? Tu l'as vu? Celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur. Et il se met à genoux devant Jésus. Et puis après, Jésus a dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, voient, et pour que ceux qui voient, deviennent aveugles. Alors là, il y avait quelques pharisiens qui se trouvaient par là. Quand ils ont entendu ça, ils étaient tout fâchés, ils disent, oui, bien sûr, c'est sans doute pour nous. Nous aussi, nous sommes aveugles, n'est-ce pas? Ben Jésus leur dit, même pas, c'est pire que ça. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous prétendez que vous voyez. Et c'est pour ça que votre péché reste sur vous. Voyez, dans ce passage, bon, c'est une version un peu moderne, hein? Une nouvelle traduction. Alors, mais il y a dans ce passage une quantité de choses qui sont extraordinaires. Des choses qui nous parlent et qui nous intéressent directement. Si on reprend un tout petit peu, dans l'ordre, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. D'abord, les disciples se sont trouvés face à quelqu'un qui était dans un état qui pour eux était une énigme. D'après la loi, d'après leur conception religieuse de la vie, le péché, une infirmité, le malheur, était toujours forcément, en quelque sorte, le prolongement d'un péché. Donc, dans certains cas, on peut expliquer, plus ou moins bien, mais un aveugle né, ça pour eux c'était un mystère, c'est une énigme. C'est pour ça le sens de leur question. Alors c'est qui a péché ? C'est difficile d'accuser quelqu'un de péché au moment même de sa naissance quand même. Hein ? Péché par anticipation, c'est dur. Hein ? Bon, d'un autre côté, faire porter le chapeau à ses parents, ben, c'est pas forcément logique non plus. Alors, ils étaient, dans leur structure, ils étaient un peu perdus. Et comme Jésus était avec eux, il dit, ah ben tiens, voilà justement, tiens, parlons de celui-là, par exemple, qu'est-ce t'en dis? Et voyez, Jésus n'a pas tellement répondu directement à ça. Mais ce qu'il leur a dit, c'est qu'à travers le cas de cette personne, il allait leur révéler quelque chose. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. J'allais dire, pratiquement tout le monde peut prononcer cette phrase. Je ne vous la ferai pas prononcer, parce que ça serait un peu ridicule, mais tout le monde pourrait dire « je suis la lumière du monde ». Ben, ça ne nous éclairerait pas beaucoup. Tandis que, quand Jésus a dit « je suis la lumière du monde », lui, il dit « je suis la lumière du monde ». Mais il faut le prouver. Alors Jésus dit « je suis la lumière du monde ». Mais pour donner un signe qu'il est la lumière du monde, alors il va donner la vue à quelqu'un qui est dans le noir depuis toujours. Et il démontre qu'il est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Voyez, le miracle dans l'évangile de Jean, les miracles, il faut toujours bien comprendre que ce sont des signes. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pour vocation, ils n'ont pas pour but qu'on les regarde. Ce qui est important, ce n'est pas le miracle. Ce qui est important, c'est celui qui fait le miracle. La réalité, c'est Jésus. Le miracle, c'est le signe. Le signe nous indique simplement dans quelle direction faut regarder. Le signe nous montre, c'est comme une flèche qui nous dit, voilà, il faut regarder vers Jésus. Jésus fait des signes, pas pour qu'on regarde les signes, mais pour qu'on regarde Jésus. Hein, je prends toujours le même exemple, mais quand vous êtes sur une route, et puis que vous avez, avant un virage, vous avez un truc triangulaire comme ça, avec une flèche à droite, ça veut dire virage dangereux, c'est un signe. Bon, il y en a qui disent « j'aime pas les signes ». Bon, ben, tu fais comme tu veux. Hein ? Non, mais c'est vrai, on est libre. Alors, il y en a, ils n'aiment pas les signes, ils foncent, bouffe, bon. Après, on les retrouve dans le décor. Bon, ben, voilà, après, ils apprennent ce que c'est qu'un signe. Mais on peut... Le signe, c'est le signe. La réalité, c'est pas le panneau. La réalité, c'est le virage dangereux. Et regardez le signe, alors, pour le coup, c'est idiot. Parce que si vous roulez, et puis que vous continuez à regarder que le signe, voyez ? Ça ne va pas vous aider non plus. Donc il faut tenir compte du signe, mais pour connaître la réalité. Si on regarde les miracles pour les miracles, alors on a tout faux. Le miracle, il est là pour nous désigner Jésus, celui qui fait le miracle. Hein. Ça, c'est la différence entre le signe et la réalité. Alléluia. Donc Jésus dit, je suis la lumière du monde. Les autres disent, oh voilà, en voilà une phrase. Oui, bon, Jésus dit, bon, faites venir un aveugle-né, on va voir. Alors quand l'aveugle-né voit, il dit « je suis la lumière du monde ». Les gens écoutent. Vous voyez ? C'est simple. Les réalités de Dieu sont extrêmement simples. Même si Dieu en lui-même est extrêmement complexe, connaître Dieu est très simple. C'est seulement parce que l'homme est très compliqué qu'il a fini par rendre ça compliqué. Mais Dieu, c'est tout simple. Connaître Dieu, c'est simple. Rentrer en contact avec Dieu, en relation avec Dieu, mais c'est tellement simple que quelquefois, les intellectuels ont trouvé ça trop simple. Alors, oui, enfin, ça dépend comme vous voulez. Alors, maintenant, un point qui peut nous étonner un petit peu, c'est sur la méthode. Hein, le truc de prendre un peu de terre, faire de la boue avec sa salive, en mettre sur les yeux de l'aveugle. Aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près essayé tout ce que Jésus a fait, hein, avec plus ou moins de bonheur, Mais j'ai jamais vu beaucoup de bouistes quand même, hein. C'est vrai, c'est pas un truc qui... Pourquoi? Parce que c'est le truc, si vous le faites, vous avez pas droit à l'erreur, quoi, hein. Non, mais faut être réaliste. Alors, il faut vraiment que le gars encore le laver, ça, on peut tous le faire. Mais qu'après il voit, là, il faut vraiment être sûr de son coup, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de bouistes. Et alors, Jésus, Mais ce qui m'intéressait, c'est pourquoi Jésus choisit une telle méthode. Parce que Jésus aurait pu faire la même chose, par exemple en lui imposant les mains. Même une seule, hein. Une seule. Même sans appuyer, hein. Il pouvait le faire, hein. C'est les initiés qui comprennent. Alors, donc il aurait pu, Jésus aurait pu le faire, même sans le toucher du tout. Juste en le regardant. Vois! Voyez? Ça allait. Mais Jésus décide de faire autrement. Donc s'il décide de faire autrement, c'est que ça a un message en soi. Ça a une portée. Et bon, des fois, je me suis un peu gratté la tête pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Et ce qui m'a mis sur la voie, c'est un verset du Deutéronome. Deutéronome, c'est dans l'Ancienne Alliance. Hein. C'est dans la loi de Moïse, je vous le lis, c'est Deutéronome 8:3. C'est seulement la fin de ce verset qui dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Voyez ? L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel porte la vie. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel est créateur. Ce qui sort de la bouche de l'Éternel est capable de transformer, d'amener à la réalité quelque chose qui n'existait même pas en rêve. Et normalement, ce qui sort de la bouche de quelqu'un, ben c'est clair, c'est sa parole. C'est notre parole qui sort de notre bouche, ok? Mais une parole, c'est quelque chose qui est une abstraction. C'est un mot abstrait, une parole. Personne ne peut attraper une parole, la plier en quatre, la peindre en bleu. Une parole, c'est abstrait, c'est quelque chose qui passe. Alors, comme Jésus aime ce qui est concret, parce qu'il veut être sûr de se faire bien comprendre. Il veut pas faire de la théorie, de la théologie. Il veut être sûr que les gens comprennent ce qu'il est en train de dire. Alors Jésus a choisi quelque chose qui est le signe, qui est la représentation de la parole qui sort de la bouche. Alors il a pris sa salive qui sort de sa bouche. C'est ce qui peut le mieux concrètement représenter la parole. Et Jésus a pris de cette salive qui sort de sa bouche et il a fait en sorte que cette application porte la vie, elle est créatrice. En faisant ça, Jésus s'est assimilé à Dieu lui-même. Parce que c'est ce qui sort de la bouche de l'Éternel qui donne la vie. Et Jésus l'a fait lui-même. Alors, il aurait pu le faire directement, prendre juste un peu de sa salive, mettre sur les yeux. D'ailleurs, dans certains cas, il l'a fait comme ça. Hein. Mais ce coup-là, il a pris de la terre. Il a fait un peu de la boue. Parce que moi, je le comprends comme ça. Si vous pourrez le comprendre autrement, si vous voulez. Moi, comme je le comprends, c'est une image, si vous voulez. La terre, c'est ce qui représente notre condition naturelle. Notre condition depuis le jardin d'Éden, cette terre qui a été maudite, cette terre dont nous sommes sortis et dans laquelle nous retournerons à la fin. Cette terre, c'est notre condition charnelle, notre condition, humainement parlant, misérable. Mais si la parole qui sort de la bouche de Dieu agit dans cette terre maudite, elle est capable d'y apporter la vie. Elle est capable d'engendrer quelque chose qui n'existait pas. Oh, je ne crois pas que ni l'aveugle, ni les autres, ce jour-là, n'aient compris tout ça. Hein. Ils ont fait comme nous, ils ont réfléchi après. Mais lui, il avait compris une chose, et là, il m'a épaté aussi. C'est qu'il a cru que ce traitement que Jésus faisait était vraiment capable de le guérir. Non seulement il s'est laissé faire pour le coup de la boue, mais encore, il fallait qu'il traverse la ville pour aller jusqu'à la piscine de Siloé à l'autre bout. Alors il est parti tout gaillard, et pendant le chemin, peut-être que les autres, il y en a quelques-uns qui l'ont arrêté en route. Il dit, où t'as couché cette nuit, t'es tout mâchuré là, viens voir à la maison, on va te laver un peu là, mon pauvre, tu t'es mis minable, hein, viens voir là. Non, il a dit, moi je me lave à Siloé. Pourquoi? Je me lave à Siloé. Peut-être comme ça, deux, trois fois. Il arrive à Siloé. Vous imaginez cet instant-là? L'instant dramatique, quand cet homme se retrouve au-dessus de cette eau. Il a pris de cette eau, il l'a mis sur ses yeux. Il fallait qu'il se décide à ouvrir les yeux. Il a ouvert les yeux et tout d'un coup, des reflets, de la lumière, des choses, de la lumière, des couleurs. Un gars qui n'avait, vous imaginez, quelqu'un qui n'avait jamais vu. C'est impossible de comprendre ce que doit ressentir quelqu'un qui n'a jamais vu et tout d'un coup qui voit. Parce que quelqu'un qui serait devenu aveugle, il a des souvenirs. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu, il ne sait pas ce que ça veut dire. Même essayer d'expliquer à un aveugle né qu'est-ce que ça veut dire les mots rouge, bleu, vert, brillant, lumière, ça ne veut rien dire. C'est impossible. Mais lui, tout d'un coup, il voyait des choses. Et il a commencé, parce qu'un quelqu'un comme lui, il faut lui expliquer ce qu'il voit. Il voit, mais il ne sait pas ce qu'il voit. Il voit un grand truc là-bas, il dit, c'est quoi ce grand truc? On dit, mais ça c'est un arbre. Ah, oh, il dit, ça c'est un arbre. Ah, c'est un arbre. Et puis quelqu'un vient, on lui dit, mais ça c'est ta maman. Il dit, oh, c'est ma maman. Oh, maman. Vous voyez, il faut tout qu'il découvre. Parce que c'est une nouvelle vie pour lui. Alors on imagine dans quel état d'enthousiasme, de joie, le gars il était complètement ébahi comme ça, hein. Alors il sautait le long de la route, tout ça, et les gens, ceux qu'il connaissait bien, ils l'ont reconnu. Il y en a qui le regardaient sauter, ils disent, mais tu sais, on dirait le type, tu sais le gars qui était assis là, qui fait la manche, c'est drôle, il ressemble drôlement au type farfelu qui vient de passer là. Ben il y en a qui disent, ben ouais, c'est lui. Il y en a qui disent, non, moi je pense qu'il doit avoir un frère qui lui ressemble beaucoup. Et il y en a qui n'arrivaient pas à se décider à croire que c'était lui, tellement c'était extraordinaire. On n'a jamais vu un aveugle qui voit. C'est pas possible. Oui, bon. Donc, alors. Non, vous allez me faire perdre mon fil après. Je sais plus où je suis. Alors, donc il dit, j'y vois. Voilà. Alors tout le monde lui demande. Tout le monde lui demande, mais il dit, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il dit, c'est un monsieur. Un monsieur, il s'appelle Jésus, et voilà ce qu'il m'a fait, tout ça, il raconte, les autres lui disent, il est où? Ben, il dit, ben, je sais rien, vous voyez. Alors, c'est là qu'on voit que sa connaissance de Jésus, à ce moment-là, était très très faible. Mais on voit que, ça c'est extraordinaire, en très très peu de temps, sa révélation de la personne de Jésus s'est multipliée en très très peu. D'abord, il le connaissait à peine son nom, vous voyez. Et au début, même pas son visage de force, hein. Mais il connaissait que son nom. Et puis, un petit peu après, il a été amené à dire, hein, que cet homme venait de Dieu. Et puis après, un peu plus loin, verset 17, il a reconnu de lui-même, personne ne lui a dit, que c'est un prophète. Et puis un petit peu plus loin encore, plus loin, il a reconnu que cet homme devait venir de Dieu et que forcément il n'était pas un pécheur, puis sinon Dieu ne l'aurait pas exaucé, etc. Et puis à la fin de cette histoire, il a reconnu que c'est le Fils de Dieu. Vous vous rendez compte? Et il l'a adoré. Vous vous rendez compte, un homme qui, en peut-être 24 heures, même si on peut supposer que entre la deuxième fois où les pharisiens l'ont rappelé, etc., il ait pu avoir une journée ou quoi, ça change pas grand-chose. Même si c'est en 2-3 jours, on s'en fiche. En tout cas, cet homme-là, en si peu de temps, est passé d'une connaissance quasi nulle de Jésus, sauf que c'était un monsieur Jésus, à tout d'un coup, quelqu'un devant lequel il était capable de se prosterner. Attention, un juif, se prosterner devant un homme. Là, il faut qu'il ait des raisons très sérieuses, hein. Attention, parce que soit il a raison, soit c'est blasphématoire, et il peut se faire lapider, hein. Eh, on se prosterne pas devant un homme, on se prosterne devant Dieu seulement, hein. Mais lui, en si peu de temps, il était capable de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Et il était capable de l'adorer. Ouais. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était pas compliqué. Voilà. Le gars, il a pas fait des études, il a pas fait un cursus académique pour ça. Mais le Saint-Esprit qui l'a renouvelé, non seulement sa vue, attention, le Saint-Esprit a renouvelé sa connaissance de Dieu. Et il est devenu maintenant quelqu'un qui voit Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu. Et c'est ce qui peut vous arriver ce soir. Alléluia. Vous avez peut-être pensé qu'il fallait très longtemps et que c'était très compliqué pour connaître Jésus. Eh bien, je vais vous dire, voyez, c'est très simple. C'est très simple. C'est une relation. C'est un contact. C'est une révélation. Mais cette révélation, Dieu veut la donner à chacun parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Qu'ils se repentent et qu'ils aient la vie. Alors, cet homme ne savait pas qui était Jésus et les pharisiens donc étaient fâchés parce que pour eux, d'abord ils étaient fâchés avant le problème, hein, déjà. De toute façon, eux, ils étaient fâchés avec Jésus avant. Mais voilà que Jésus avait fait ça un jour de sabbat. C'est-à-dire, c'est un jour où on ne doit pas travailler. Et eux, ils avaient décidé d'assimiler le fait de guérir quelqu'un à un travail. Comme si Jésus était un artisan guérisseur. Donc, ils avaient dit, non, s'il guérit le samedi, c'est pas bon. Les gens ont qu'à se faire guérir le vendredi ou le dimanche, mais pas le samedi. Et puis alors surtout, là, ce qui a compliqué le coup, c'est que Jésus, Jean le dit avec un petit sourire entre les lignes, c'est que Jésus a fait pire, c'est que ce jour-là, il a fabriqué de la boue, vous voyez. Donc il a fait deux travaux. Hein. Donc il a fait deux œuvres. Et une, c'était de fabriquer de la boue. Bon, d'accord, il n'en a pas fait une brouette, hein, mais même pour eux, c'était dans le principe. Pour eux, c'était dans le principe. Il avait fabriqué de la boue. Déjà, c'est un travail. Deuxièmement, avec cette boue, il a guéri quelqu'un. Ça, c'est inabordable. Non, pas question. Alors, il y en a qui... Ça a été... Vous voyez, quand la religion n'est pas renouvelée, elle aboutit à des... C'est bête à dire, hein, mais à des absurdités. À des absurdités. Voilà, une religion mal comprise, parce que c'était une bonne religion. C'est la religion de Dieu, mais mal comprise, transformée par la tradition des hommes. Elle est devenue quelque chose qui les a amenés à une absurdité. Cet homme qui guérit ne peut pas être de Dieu. Paf, paf, voilà, ça tombe. Mais il y en avait quelques-uns quand même qui avaient peut-être la conscience plus tendre, qui disaient aux autres, oui, mais alors, comment t'expliques ça alors? Nous, on n'a jamais vu, personne, t'as jamais vu chez toi quelqu'un faire ça, hein? Alors, ils se disputaient. Et finalement, ils lui ont demandé, et le gars, il dit, ben ça, c'est un prophète, ça les énervait encore plus, mais ils ne savaient pas dire quoi d'autre. Comment il savait pas comment le contrarier? Parce que c'est vrai que dans la Bible, des prophètes qui ont guéri, qui ont fait des tas de choses, il y en a déjà eu d'autres avant. Alors, ils étaient vraiment embêtés. Mais ils essayaient, encore dans leur incrédulité, ils essayaient de se retrancher derrière la possibilité, peut-être, ils se sont dit, peut-être, il y a une escroquerie dans ce coup-là. C'est des gens qui ont mis au point un truc, le gars il est arrivé, il a fait... Et puis en fait c'était un voyant, et tout d'un coup, hop, on le fait... Ouais mais attends, on va faire venir les parents. Alors ils ont fait venir tout le monde, et puis ils ont essayé de leur faire cracher le morceau. Ils disent, ah, votre fils, hein, tu penses, ouais, aveugle, ouais, on connaît l'histoire. Mais les parents disent, non, c'est notre fils. Non, il est né aveugle, c'est sûr, il est né aveugle. Puis après, comme ils avaient la trouille, ils ont dit, écoutez, voyez avec lui, hein, c'est son problème, hein. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu triste, hein, entre nous. Hein. Non, c'est vrai. Hein, c'est un peu triste parce que des parents n'aient pas plus de courage. Et le courage de manifester de la joie devant leur fils qui était né aveugle et qui tout d'un coup retrouvait la vue, ils n'étaient même pas capables de se réjouir officiellement avec lui. Bon, je dis, c'est dommage. Hein. Lui, ce jour-là, il a retrouvé la vue, mais bon, il a vu que ses parents n'étaient pas d'un courage très téméraire. Hein. Enfin bon. Alors, de nouveau, les pharisiens l'ont appelé une deuxième fois et lui disent, donne gloire à Dieu. Ça a le sens de, tu sais, tu peux remercier le Seigneur qu'on soit là pour te remettre sur le droit chemin. Hein. Dis donc, tu étais en train de partir dans une mauvaise direction. Hein. Fou, là, là. Tu allais être séduit par cet homme. Mais nous savons, hein, nous savons que c'est un pécheur. Et lui, vous voyez, parce qu'il est transformé par Dieu, son intelligence aussi se développe rapidement, tous les neurones se mettent en place. Et il leur dit, écoutez, il leur fait une réponse extra, il leur dit, bon, vous savez, ok, moi je sais pas, donc je vais pas discuter avec vous sur un domaine où on n'est pas à égalité, moi je peux pas discuter de ça, vous savez, bon, ben ok, moi je dis, mais en tout cas, le truc que moi je sais, hein, le truc que je sais, c'est qu'avant, j'étais aveugle. Et maintenant je vois. C'est difficile, hein. ça fait pas une conversation, ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que les autres ils disent en face? Ils pouvaient s'énerver un peu plus. Comme disait Napoléon, il n'y a pas plus têtu qu'un fait. C'est vrai, c'est un fait, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? On peut bien dire, mais c'est un fait, c'est comme ça. Alors il lui redemande encore une fois, il dit, mais qu'est-ce qui t'a fait? Et lui, lui dit, mais écoutez, Je vous l'ai déjà dit, je vous explique de long en large, tout ça, vous écoutez même pas, vous me faites répéter, c'est quoi ça, ça sert à rien. Et puis, il a commencé, parce qu'il devenait futé, il a commencé à les titiller un peu, à se moquer d'eux un peu gentiment. Et il leur dit avec une ironie, hein, une petite ironie, il dit, mais peut-être parce que vous voulez aussi devenir ses disciples, hein. Ah là là, les autres, là, ils commençaient à friser la syncope, hein. Ils étaient énervés, ils étaient fâchés. Et voyez comment cet homme progresse en lui-même. Parce que ce « aussi », quand il dit « voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» S'il dit « aussi », c'est « aussi », ça veut dire « ses disciples comme qui ?» Ça veut dire que naturellement, il est déjà en train lui-même, naturellement, j'allais dire sans y penser, il est déjà en train lui-même de se mettre au nombre des disciples, hein. Voyez ? Alors les autres, du coup, se sont mis à l'insulter, ils l'ont traité de tous les noms, etc. Et il leur dit, mais on ne sait même pas d'où sort ce type. Et là, il dit, alors là, ça c'est vachement étonnant, hein. Vous êtes les conducteurs spirituels du peuple. C'est vous qui devez tout savoir. C'est vous qui devez nous conduire. C'est vous qui devez nous dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Voilà que pour la première fois dans l'histoire de toute l'humanité, paraît quelqu'un qui est capable de rendre la vue à un aveugle né et vous ne savez pas d'où il vient. Vous, les conducteurs. Waouh. C'est bizarre quand même, hein. Et puis après, maintenant, c'est lui qui leur explique. Il me dit, moi, je sais une chose. C'est que si cet homme venait pas de Dieu, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'il pourrait faire ça de lui-même? Il faut que ce soit quelqu'un qui honore Dieu. Et Dieu l'exauce, Dieu l'honore. Et les autres ne savaient plus quoi dire. Ils étaient de plus en plus fâchés, ils n'avaient plus d'arguments. Alors quand on n'a plus d'arguments, eh bien, on se met en colère. Et la colère, c'est souvent une porte de sortie quand on ne sait plus quoi dire. Hein? Dans les ménages, c'est comme ça, non? Alors, donc, ils se mettent en colère et ils l'ont chassé. Mais en le chassant, ils se sont en quelque sorte trahis parce qu'ils lui disent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Vous voyez, quand ils disent, tu es né tout entier dans le péché, ils font allusion à cet état de cécité dans lequel il était né. Tu es né tout entier dans le péché. Donc en disant ça, ils reconnaissent par le fait même, ils reconnaissent le miracle. Ils reconnaissent qu'il était bien né, aveugle, qu'il était bien né, comme ils le comprenaient eux, dans le péché. Et comme ils voyaient maintenant, en quelque sorte, ils confessaient eux-mêmes qu'il y avait eu un miracle extraordinaire. Alors ils l'ont mis dehors. Et l'autre dehors, il était tellement content de voir, voyez. Et tout d'un coup, il rencontre Jésus. Mais il ne sait pas que c'est Jésus, bien sûr, il ne peut pas le reconnaître. Parce que quand il a été guéri, c'était à la piscine de Siloé, il ne sait pas à quoi ressemble Jésus. Et Jésus lui dit, mais est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Mais lui dit, mais moi je veux croire au Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, tu l'as vu. Vous voyez, Jésus lui dit pas, je suis devant toi, il lui dit, tu l'as vu. Si tu l'as vu, c'est parce que tu peux le voir. Avant, tu n'aurais pas pu le voir, mais maintenant, tu peux le voir, parce que c'est lui qui t'a rendu la vue, c'est moi. Et vous voyez, c'est très rare que dans l'évangile de Jean, Jésus se présente directement lui-même en présentant son identité de fils de Dieu. C'est très rare. Mais pourquoi Jésus le fait là? Parce qu'il le fait devant quelqu'un qui a soif de connaître le fils de Dieu. Alors Jésus lui dit, c'est lui, je suis là. Et cet homme s'est prosterné, il l'a adoré. Alors après, Jésus en a profité pour compléter son enseignement à tous ceux qui étaient là. Il a dit, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui voient... Ah, je vais vous le relire, parce que tout à l'heure, je l'ai peut-être un peu écorché. Hein. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Reconnaissez qu'à la première lecture, c'est un peu mystérieux quand même. Hein. Ouais. Ça mérite un petit peu quelques explications. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Ceux qui ne voient pas, par exemple physiquement, comme cet aveugle, qui ne voyait pas et qui maintenant voit. Mais Jésus ne fait pas allusion seulement à ceux qui étaient aveugles physiquement, parce qu'il y avait aussi d'autres aveugles dans son temps. Ce que Jésus veut dire, c'est tous ceux qui étaient aveugles par rapport à Dieu. Tous ceux qui étaient incapables de voir Dieu dans leur vie, ceux qui étaient incapables de reconnaître Dieu dans leur existence, dans leur monde, dans leurs difficultés, comme peut-être ce soir quelques-uns ici, qui sont rentrés ici en étant aveugles Ah, mais ils n'avaient pas une canne blanche. Mais ils étaient aveugles parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne voient pas Dieu. Mais Jésus dit, je suis venu pour que ceux-là voient, qu'ils connaissent Dieu. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jésus ne parle pas ici physiquement, que ceux qui comme nous, ont des yeux hein, et qui voient bien, pas pour que ceux-là tombent tout d'un coup dans la cécité, mais pour que ceux-là se rendent compte de ce qu'ils sont, pour que ceux-là puissent être convaincus de leur péché, de leur jugement. Il y avait quelques pharisiens qui étaient là, ils n'ont pas tout compris ce que Jésus voulait dire, mais ils comprenaient en tout cas que c'était une allusion à leur propre état. Alors ils étaient fâchés, ils ont dit, ah, tu vois, ils se poussaient du coup, ils disaient, toi, ça c'est encore pour nous, c'est sûr, c'est une pointe, ils vont encore nous piquer. Ils ont dit à Jésus, alors certainement les aveugles chez nous, n'est-ce pas, hein, bien sûr, nous sommes des aveugles, bien sûr, voilà, toujours. Hein. Mais Jésus a dit même pas, c'est pire que ça. Si vous reconnaissiez que vous étiez des aveugles, Dieu pourrait encore vous guérir, mais vous prétendez que vous voyez, alors vous restez ce que vous êtes. Chers amis, Jésus est venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Il est venu parce que il est venu donner la vie. Il nous a donné un signe parce qu'il est celui qui fait voir des aveugles. Il est celui qui fait voir ceux qui sont dans la confusion, ceux qui dans leur tête sont dans le trouble, ceux qui ont tellement entendu de trucs à propos de Dieu, à propos de la vie, à propos de ceci, cela, ça passe dans un sens, dans un autre, ils savent plus. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut croire? J'en sais plus rien, je m'en fous, voilà. On n'y comprend rien. C'est pas, il y a des religions de toutes sortes. Je sais plus où j'en suis. Moi, je m'en occupe plus, tiens, voilà. Mais je vais te dire, Dieu est pas compliqué. Dieu est pas compliqué. Dieu veut que tu le connaisses. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aime ce Jésus-là. J'aime un Jésus facile. Un Jésus qu'on comprend. Un Jésus qui est tout près. Un Jésus qui est à notre portée. Un Jésus qui est puissant. Un Jésus qui transforme. Un Jésus qui donne la vie. Un Jésus qui est capable de nous transformer dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Un frère tout à l'heure a dit que lui, sa gangrène, c'était sa haine dans son cœur. D'autres, c'est dans autre chose. D'autres, c'est dans autre chose. Mais Jésus est venu afin que ceux qui croient en lui reçoivent la vie. Afin qu'ils aient la liberté. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis pas tombé comme ça, tout chrétien non plus. Il y a eu un temps où je voyais pas. Il y a eu un temps où je me regardais, et ben, ça m'éblouissait tellement que je voyais rien d'autre. C'est vrai? Aujourd'hui, ça me paraît vraiment hallucinant. Mais j'étais tellement content de moi. Je servais à rien, je faisais rien, j'aidais personne. J'étais persuadé d'être quelqu'un de très bien. C'est dingue, hein? C'est dingue. Ils avaient des gens comme ça. Ils servent à rien. Non, c'est... Ou alors ils font des problèmes, mais je veux dire, à rien de bien, quoi. Et ils sont quand même contents d'eux. Ils disent, ouais, je suis moi. Chers amis, il faut que Dieu nous dessille les yeux. Il faut qu'il nous enlève nos illusions. Il faut qu'il nous permette de nous voir nous-mêmes tel qu'on est, pour pouvoir le voir lui tel qu'il est, grand, puissant, glorieux, majestueux, saint, extraordinaire, beau, intelligent, sage, tellement bon. Mais pour voir ce Dieu comme ça, pour voir ce Jésus comme ça, il faut cesser de se regarder avec complaisance. Il faut que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Il faut que ceux qui ne voient pas, se mettent à voir. J'aimerais que maintenant, ceux à qui le Saint-Esprit est en train de parler dans les cœurs, parce que je crois que le Saint-Esprit veut parler dans quelques cœurs. Je crois que l'Esprit de Dieu veut aider quelques-uns qui ont besoin ce soir de dire, Seigneur, jusque-là, jusqu'aujourd'hui, j'ai vraiment été, je me suis conduit comme un aveugle. J'ai même pas cherché ta face. Je me suis même pas préoccupé de toi. J'ai vécu comme si la vie, comme si l'univers tournait autour de moi, Seigneur. Et puis maintenant aussi, tu te rappelles ce que tu as fait qui a été une charge pour ceux qui étaient autour de toi. Tu as dit, j'étais un aveugle. J'étais comme un mendiant dans la société. Mais maintenant, laisse l'Esprit de Dieu te convaincre. Laisse l'Esprit de Dieu passer là comme ça. Il touche ta tête. Il touche ta tête là. Dans ta tête maintenant, tu sais. Tu sais que c'est Jésus. Jésus t'appelle. Tu sais que Jésus parle à ton cœur. Là, dans tes sentiments. Tu sais que c'est Jésus qui est en train de te dire, mon ami, laisse-moi mettre la parole de vie qui sort de la bouche de l'Éternel et qui va te donner la vie, qui va te transmettre la vie. Ne reste pas dans ce que tu es jusque-là. Laisse la parole qui sort de la bouche de l'Éternel sortir, parce que tu ne vivras pas de pain seulement. Mais tu peux vivre aujourd'hui de ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la vie que Dieu va te donner. Vous sentez que Dieu parle à votre esprit. Vous sentez que vous vous êtes fourvoyé. Vous savez la conviction que maintenant, que vous êtes parti dans des chemins complètement erronés, que vous avez adoré des idoles, peut-être pas des idoles sur des socles, mais des idoles de pierre, des idoles de bois. Vous dites, mais j'étais un imbécile. Mais aujourd'hui, tu peux te repentir. Aujourd'hui, tu peux venir devant ce Jésus et lui dire, mais qui c'est le Fils de Dieu pour que je l'adore, pour que je l'aime? Et Jésus va te dire, c'est moi. Alors prosterne-toi devant lui, adore-le, dis-lui, je veux croire.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.